Les dessous de l'Infox. Grégory Genevrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les dessous de l'Infox. Menace silencieuse mais omniprésente, la désinformation ne cesse de monter en puissance en Afrique francophone. Qu'elle provienne de pays étrangers ou d'acteurs locaux, les campagnes de manipulation s'attaquent à tous les domaines de la vie quotidienne. Alors comment expliquer ce phénomène? Pourquoi les francophones sont-ils les grands absents des initiatives de lutte contre la désinformation sur le continent? On en parle avec notre invité, Paul-Joël Kamchang, data journaliste et chercheur. Il vient de publier « La désinformation en Afrique francophone » aux éditions Jet d'Encre. Confrontée à la guerre informationnelle russe depuis plus de 10 ans, l'Ukraine fait aujourd'hui figure de proue en matière de lutte contre la désinformation. Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience? Élément de réponse avec Mikhailo Dankanich, fondateur de l'organisation ukrainienne Break the Fake. Et puis nous parlerons du Canada et de son nouveau Premier ministre libéral, Marc Carney. Ces derniers jours, il est la cible de plusieurs images générées par intelligence artificielle. C'est ce que nous dira Olivier Four dans sa chronique. Mais avant ça, place à l'invité.
On en parle.
Bonjour Paul-Joël Kamchang.
Bonjour Grégory.
Merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Alors vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes notamment data journaliste, chercheur pour plusieurs organisations internationales. Vous êtes aussi le fondateur et le coordinateur éditorial du média de fact-checking camerounais DataCheck. Et vous venez de publier un essai très intéressant, « La désinformation en Afrique francophone » aux éditions Jet d'Encre. Vous commencez cet ouvrage en citant la cartographie de la désinformation réalisée en 2024 par le Centre d'études cartographiques de l'Afrique. On y apprend que les campagnes de désinformation ciblant le continent ont presque quadruplé depuis 2022. L'Afrique francophone est particulièrement touchée. Comment est-ce que vous expliquez cette dynamique ?
Écoutez, on explique cette dynamique par plusieurs facteurs, notamment des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Parmi les facteurs endogènes, on a par exemple les systèmes de gouvernance qui se complexifient au fur et à mesure que la démocratie s'installe. Et comme facteur exogène, on a cette question de la géopolitique du monde qui est en train de se redéfinir à partir de ce qu'on appelle des guerres hybrides, notamment le cas de la Russie, le cas de la Turquie, le cas de la Chine, le cas d'Israël. Et donc, parmi ces cas que je viens de citer, il y a ceux qui sont beaucoup plus silencieux que d'autres. Et il y a d'autres, pour me redire, qui font un peu de bruit autour des actions qu'ils mènent sur le continent. Et il faut dire, en fait, que c'est ce qu'on appelle des concurrents stratégiques ou géostratégiques et même commerciaux pour la plupart des cas. Parce que, comme vous le savez, c'est de remplacer ceux qui étaient déjà à des endroits où le marché beaucoup plus attrayant, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus développé. Et donc, on est obligé d'emprunter à cette guerre hybride pour pouvoir terrasser ses concurrents sur le terrain.
Oui, parce que vous citez différentes puissances, différents pays. L'une des conclusions de ce rapport, c'est aussi que la Russie demeure, je cite, le principal fourvoyeur de la désinformation en Afrique francophone et notamment au Sahel.
Effectivement. Et il faut peut-être questionner son budget pour comprendre que depuis ces 10 dernières années, la Russie a beaucoup investi dans le secteur de la communication, notamment en direction de l'Afrique, pour construire un nouveau narratif et influencer les narratifs qui existaient depuis. Également, dans cette communication dans laquelle la Russie investit. Il y a également le soutien aux médias locaux qui aide beaucoup la Russie à écrire un nouveau narratif qui contenterait tous les tenants du pouvoir qui ont tendance à tourner le dos à l'Occident, dont aux anciennes puissances, notamment les États-Unis, l'Angleterre et même l'Allemagne, parce que ça, il faudrait peut-être préciser que tout récemment, l'Allemagne a lancé un appel pour recruter un consultant qui doit l'aider à évaluer au combien la désinformation a écorné son image en Afrique. Donc, vous comprenez là qu'on est tout de suite dans une sorte de prise de conscience de la part de ces puissances face donc à la dynamique de la Russie qui attaque un peu de partout, parce que ce n'est plus qu'en Afrique. En Afrique, peut-être, on a beaucoup plus des répercussions, mais quand vous avez, par exemple, l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, vous avez tout de suite des puissances qui interviennent, qui, pour garder sa puissance, notamment l'OTAN, pour contrôler un certain nombre termes de position géostratégique, mais cela a des répercussions en Afrique parce que le cas de la RCA, où une grosse base, la Russie, à travers notamment ce que nous appelons son agence de services après-vente Wagner, développe des actions pour le moins curieuses, ou encore récemment avec l'élection au Tchad, où on a remarqué un rapprochement et qui n'avait pas eu lieu depuis au moins 1948 entre un président tchadien et un président russe. Et tout de suite, ce balai diplomatique qu'on a assisté entre le premier ministre, le ministre des Affaires étrangères de la Russie en RCA, et puis l'ouverture de ce corridor entre la RCA et N'Djamena, qui, comme vous le savez, la Russie a permis ce rapprochement pour ses positions géostratégiques et son maillage de la sous-région Afrique centrale.
Si on se concentre un petit peu plus sur le Sahel, quand on voit les coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, avec des régimes aujourd'hui qui sont favorables, disons, au Kremlin, est-ce qu'on peut dire que la désinformation est un outil de déstabilisation particulièrement efficace ?
Oui, quand on voit à peu près comment les anciens régimes de ces pays sont tombés, les drapeaux qui ont été brandis, par exemple, par des citoyens, on a quand même pris le temps d'étudier le profil des personnes qui brandissaient ces drapeaux, mais on a tout de suite compris en réalité qu'il s'agit là des personnes qui représentent d'un point de vue visible des cabinets noirs qui travaillent justement à cela. Et je crois que ça continue à payer. Et la preuve, c'est que tous ces pays ont tourné le dos à la France, aux États-Unis, et vous remarquer que depuis quelques jours, on a quand même des notes qui annoncent le retrait de ces pays de la francophonie et donc qui veut complètement tourner le dos aux pays occidentaux. Et on voit quand même qu'au fur et à mesure que la Russie organise des sommets, Sochi, le sommet Russie-Afrique, on a quand même remarqué cet engouement de ces présidents à aller se pavaner avec ce nouveau partenaire pour dire à l'ancien partenaire qu'écoute, on a trouvé mieux que toi. Mais en réalité, quand vous voyez le narratif qui est construit, c'est que la Russie, la Chine et tous ces autres pays donnent l'impression d'être des meilleurs partenaires, de les soutenir. Mais en réalité, quand vous essayez d'analyser tout ce soutien, ces soutiens sont en fait dénués de tout soutien aux questions de démocratie, aux questions de protection des droits de l'homme, mais mettent en avant des questions de business, des questions commerciales. C'est sans dire ou alors sans mentionner que la plupart de ces pays ont revu, par exemple, leur coopération militaire et se prononcent très peu sur les exactions des militaires russes sur le terrain sur des questions, par exemple, de violation des droits des citoyens. Le cas, par exemple, de la RCA ou des autres pays où des images ont circulé montrant, par exemple, des militaires russes ou alors des soutiens russes sur le terrain en train de mater certaines populations. Donc, pour ma part, je dirais que oui, c'est une carte qui marche malheureusement.
L'autre pays qui est pointé du doigt, vous venez de le citer, pour son implication dans les campagnes de désinformation, c'est la Chine. Mais vous écrivez, Paul-Joël Kamchang, que la stratégie est différente. La Chine opère en silence.
Oui, effectivement, la Chine opère en silence. Je crois que les seules actions de communication qu'on peut voir, c'est uniquement quand des médias africains vont pour 3 semaines s'imprégner ou en immersion dans des médias chinois, ou quand il y a une sorte de remise des dons en guise de soutien. Mais il y a très peu d'actions de communication, par exemple, dans le cadre de la coopération entre la Chine et les différents pays. Les seules actions de communication isolées qu'on peut constater, c'est uniquement lors des visites officielles. Mais avoir des communications ponctuelles sur des actions ponctuelles, c'est vraiment très rare. Et ce n'est qu'uniquement les pays qui reçoivent, dont les pays africains qui en parlent de temps en temps pour s'en vanter, ou alors lors des différentes campagnes ou sur quelques affiches. D'une anecdote, je me rappelle, il y a 3 ans, j'étais à Bangui. L'ambassade de France publiait l'image d'un pont construit par la France. Quelques minutes plus tard, l'ambassade de Russie également publiait l'image d'un autre pont dans une autre ville en RCA construite par la Russie. Donc, vous voyez, il y a là comme une grosse bataille, contrairement à la Chine qui ne fait pas beaucoup de bruit. Mais quand vous essayez, par exemple, de questionner les données sur l'aide publique étrangère, vous allez constater que dans la plupart des pays, ces 10 dernières années, la Chine est la plus grosse contributrice en matière de cette aide, parfois qui sont converties. Mais il n'en demeure pas moins que le plan de compensation n'est pas autant différent que celui que l'Occident offre aux pays africains.
Alors cette désinformation externe venue de l'extérieur, géopolitique, comme vous la nommez dans votre essai, elle s'accompagne aussi d'une désinformation interne, domestique. Pour en parler, vous donnez notamment l'exemple du Cameroun.
Oui, exactement. On a l'exemple du Cameroun qui s'appuie sur plusieurs contextes internes. Toute cette désinformation se matérialise, par exemple, dans le contexte présent qui est la prochaine élection qui a lieu dans 7 mois. On constate, par exemple, et on a publié pas plus tard que ce matin sur le site Data Check, par exemple, la manipulation des unes des journaux où on a pu étudier avec nos équipes une une d'un journal qui disait, par exemple, que les prisonniers appellent pour Biya à se représenter en 2025 dans la mouvance des multiples appels qu'on a à travers le pays. Mais vous avez également à côté de cette désinformation électorale ou politique, les questions du discours de haine hein, qui s'accompagnent aussi avec cette désinformation parce que vous savez, ça va de pair parfois dans l'un comme dans l'autre sens, où on a par exemple beaucoup plus l'approche tribale pour décrédibiliser des potentiels concurrents. Donc on a l'utilisation des discours de haine. On a également la désinformation politique qui abonde actuellement dans les réseaux sociaux et même dans les médias classiques, notamment le cas des émissions de débat qui, comme vous le savez, au Cameroun, chaque dimanche, laisse quand même place à un débat qui est un terreau fertile à la désinformation. Et de plus en plus, il y a cette culture dans les médias classiques où, pour des questions de non-formation ou pour des questions de service des officines, on développe des émissions de débat et on fait intervenir des profils qui sont en réalité porteurs d'un narratif pour déconstruire une image ou alors pour installer au sein de l'opinion une vue d'une classe politique ou d'une classe tribale.
Oui, c'est un phénomène qui s'amplifie à l'approche des élections présidentielles au Cameroun
En effet.
Et aussi en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui vont également passer par les urnes cette année. Est-ce qu'on peut dire, en parlant de cette désinformation domestique, que c'est devenu aussi, en quelque sorte, un outil à part entière d'exercice du pouvoir? Je pense notamment aux juntes au Sahel.
Oui, absolument. Je crois que je le dis dans l'ouvrage, dans l'essai, que à chaque fois qu'une junte arrive au pouvoir, vous allez remarquer que la première action, c'est par exemple le contrôle de l'espace public, le contrôle de l'opinion publique, le musellement des médias, par exemple, notamment les médias qui ne vont pas dans le sens de ces nouveaux tenants du pouvoir. Donc, c'est en réalité une grande arme et c'est une bonne stratégie pour pouvoir contrôler un narratif unique, dont l'information unidirectionnelle pour contrôler l'opinion et asseoir une sorte d'autorité. Et là, ça installe la frayeur dans les médias. C'est pour ça que vous allez constater qu'au Sahel, par exemple, beaucoup de journalistes qui sont libres ont quitté le pays pour s'exiler soit en Côte d'Ivoire, soit au Ghana ou des pays environnants où il y a comme une sorte de paix apparente. C'est un peu le cas également, hein, il faut le dire, avec l'approche des élections où ceux qui sont au pouvoir et qui ont l'intention d'y demeurer, essayent de construire à travers des cabinets noirs qu'ils financent à coups de beaucoup de millions, voire des milliards, de construire justement ces messages, ces dialogues, de lancer surtout ce qu'on appelle des ballons d'essai pour voir la réaction de l'opinion et voir à peu près quelle est la réponse qu'on peut apporter. Cela passe par exemple par des actions spectaculaires pour contenter l'opinion et avoir des réactions, par exemple, du genre à calmer la foule. Pourtant, en fait, on agit exactement comme un pyromane et un pompier à la fois. Donc, les stratégies sont savamment mises en place et je tiens surtout à rappeler qu'il existe beaucoup d'usines à trolls qui se renforcent, qui se densifient à la veille de l'élection pour le cas du Cameroun et pour le cas du Sahel, notamment lorsqu'on essaye de tourner le dos à l'Occident et qu'on veut construire une nouvelle relation avec de nouvelles puissances. Il y a donc toutes ces stratégies-là qui sont mises en place.
En parlant de ce flot de désinformation en Afrique francophone, Paul-Joël Kamtchang, vous évoquez aussi dans votre essai le rôle trouble des influenceurs se présentant comme panafricanistes.
Et effectivement, si vous remarquez bien en Afrique, ceux qui ne sont pas d'accord avec eux les appellent des panafricains. Et quand vous essayez de comprendre ou de lire ou d'examiner, vous allez voir qu'ils ne sont pas ou alors qu'ils sont très loin du discours des pères fondateurs du panafricanisme, notamment Kwame Nkrumah et ceux qui ont suivi, dont en réalité ce sont des sortes de comptoirs, ça on l'a noté, qui sont ouverts pour servir par exemple les nouveaux tenants et se faire plein les poches. Je cite pas mal d'acteurs en réalité qui vont de pays en pays où le discours anti-occidental est par exemple de mise pour vendre une sorte de narratif. Et vous allez remarquer par exemple sur leur compte Twitter, entre X, anciennement Twitter, ou Facebook, par exemple, qui développe une sorte de communication à diaboliser l'ancien colon et à mettre plutôt en avant le nouveau partenaire. Et donc, c'est un peu ce narratif-là qui est vendu pour l'opinion. Et généralement, vous savez que tous ces nouveaux présidents qui arrivent ont tendance plutôt à dealer avec des personnes populaires, au vu, par exemple, de la foule qu'ils haranguent à leur passage ou du nombre de followers qu'ils ont sur leur compte dans les réseaux sociaux.
Et pour lutter contre toute cette désinformation, plusieurs initiatives ont vu le jour en Afrique francophone, Paul-Joël Kamchang. Pour autant, vous regrettez que les francophones soient les grands absents des initiatives de lutte contre la désinformation ?
Exactement, et je fonde cette idée-là à partir des grands rendez-vous mondiaux où les francophones sont absents. On a par exemple le Global Fact, qui est le plus grand rassemblement qui s'est tenu récemment à Sarajevo, où on a eu l'occasion d'y aller. Et on a remarqué que, tenez-vous tranquille, aucune session n'a été animée par des francophones et il n'y a pas eu de traduction, par exemple, en français et que les francophones ne représentaient même pas les 1% des participants. Vous avez l'Africa Fact Summit, par exemple, qui s'est tenu récemment au Ghana, qui est supposé être une initiative à l'échelle du continent, mais où vous avez une dominance des pays anglophones qui ont des initiatives assez intéressantes, qui font rêver, contrairement en Afrique francophone où le fact-checking relève encore un peu de la sorcellerie, où l'éducation aux médias est très peu développée. Pourtant, ça fait partie des techniques de lutte les plus intéressantes et qui méritent quand même d'être développées, aussi bien au niveau de la société civile, mais d'impliquer davantage les pouvoirs public parce que, comme vous le savez, dans certains pays comme la Finlande ou encore comme en France, les questions d'éducation aux médias sont très développées et font même partie des programmes scolaires. Donc, pourquoi ne pas l'avoir en Afrique où la question de la désinformation, beaucoup plus intracommunautaire pour parler de la désinformation qui se développe en utilisant pour véhicule, par exemple, des langues locales, font rage. On a comme l'impression que ça ne fait rien parce qu'en fait, on n'appartient pas à une communauté où ce type de désinformation est développé. Mais quand vous essayez d'analyser, de traduire cela et de voir l'impact que ça peut avoir au sein de la communauté, vous vous dites que en réalité, on a plusieurs types de désinformation jusqu'à la plus petite unité qui est la désinformation intracommunautaire.
Donc la prise de conscience existe, mais il y a encore des efforts à faire. C'est votre message.
Oui, oui, ça je voudrais vraiment féliciter les efforts qui ont été faits. Avec un certain nombre de copains, on essaye. Là, par exemple, on a touché des bailleurs de fonds comme CEFI qui ont accepté de financer pour le prochain Global Fact qui a lieu au Brésil en juin prochain une vingtaine de francophones qui feront le déplacement. Et on a négocié, obtenu par exemple auprès de l'IFCN, notamment l'Institut Pointé qui en est l'organisation, la traduction de plusieurs sessions en français. Idem avec le Global Fact, avec l'Africa Fact Summit. Et puis, vous savez, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle la plateforme africaine des fact-checkers francophones qui essaye de faire son bonhomme de chemin en marquant son territoire pour justement développer cette prise de conscience. Mais les initiatives ne manquent pas. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il faut solidifier ces initiatives, les rendre beaucoup plus importants et impactants parce que le chantier est très grand et on a besoin de tout le monde. Mais je continue à marteler le fait que la lutte contre la désinformation ne doit pas être l'affaire que des journalistes, mais de toutes les parties prenantes, notamment les producteurs et les consommateurs de l'information pris dans leur grand ensemble.
Et c'est le message que vous essayez de véhiculer dans votre essai « La désinformation en Afrique francophone » aux éditions Jet d'encre. Merci Paul-Joël Kamchang. Je rappelle que vous êtes data journaliste et chercheur pour plusieurs organisations internationales. Véritable outil de conquête des esprits, on vient de l'entendre, la désinformation est une arme redoutable en temps de paix, mais également en temps de guerre. L'Ukraine, où l'invasion russe s'accompagne d'une vaste guerre informationnelle, en est le parfait exemple. Les Ukrainiens résistent sur le terrain, mais aussi dans l'espace cyber. Bonjour Mikhailo Dankanich.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de l'organisation ukrainienne Break the Fake, qui vise à détecter et à exposer les sources de désinformation russe en Europe. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter et nous parler de ce projet Break the Fake?
So I have experience in working in media for over 6 or 7 years.
Alors je travaille pour les médias depuis plus de 6-7 ans et j'ai aussi de l'expérience dans l'organisation de projets internationaux. J'ai donc décidé de combiner ces connaissances pour relancer ce projet, car je pense que la propagande et la désinformation russes sont des menaces importantes pour tous les pays, pas seulement pour l'Ukraine. En Ukraine, nous avons ce champ de bataille où l'on voit les obus, les bombes. C'est comme une ligne de démarcation. Mais avec la guerre de l'information, il n'y a pas de frontière. Informationnellement parlant, les Russes peuvent bombarder n'importe quel pays, la France, l'Allemagne. Avant de lancer ce projet, j'ai échangé avec plusieurs organisations ukrainiennes de vérification des faits et nous avons discuté de ce qu'il fallait faire et de la manière d'agir. Comme nous avons beaucoup d'organismes de vérification des faits, nous ne voulons pas nous contenter de faire la même chose. Notre idée, c'est aussi de partager le quotidien des victimes de la guerre, celles qui étaient sous l'occupation, celles qui étaient en captivité, en racontant leur expérience personnelle.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Ukraine est en pointe en matière de lutte contre la désinformation venue de Russie ?
À mon avis, les fact-checkers ukrainiens sont probablement les plus expérimentés dans la lutte contre la désinformation russe, parce que la Russie a commencé à envahir notre champ médiatique il y a très longtemps. Avant 2014, nous avions beaucoup de contenu russe dans nos médias. Puis ils ont commencé à intensifier leur guerre hybride autour de la Crimée. L'Ukraine a alors bloqué certains réseaux sociaux comme Odnoklassniki et VKontakt. Cela a donné quelques résultats, mais ce n'était pas suffisant. En 2021, notre gouvernement a donc décidé de bloquer les chaînes de télévision financées par la Russie, et je pense que c'était une bonne idée. Cette mesure peut sembler non démocratique, mais vous savez, elle le serait s'il n'y avait pas la guerre. Quand votre pays est en guerre, vous devez vous défendre par tous les moyens possibles pour survivre.
But when your country is at war, so you have to defend yourself in any ways to survive.
Alors ça, c'est la situation en Ukraine, Mikhailo Dandkanich. Est-ce que vous pensez que les Européens sont suffisamment conscients de la menace que représente cette désinformation ?
Eh bien, je ne pense pas que je vais révéler un secret, mais même en Ukraine, tout le monde ne sait pas comment fonctionne la désinformation. Je pense que l'évolution de l'IA et les autres outils utilisés pour désinformer est si importante et si rapide qu'il est très difficile de l'expliquer à tout le monde. Je pense donc que c'est quelque chose que nous devons expliquer probablement dès l'enfance, dans les écoles.
Oui, on pense notamment à l'éducation aux médias. Le fact-checking est-il la seule réponse à apporter face à cette désinformation russe ?
C'est important, mais le problème du fact-checking, c'est qu'une fausse information apparaît, puis elle se répand, des milliers de personnes la voient. Les médias de vérification la voient également. Ils travaillent dessus, montrent que c'est faux, mais des milliers de personnes l'ont déjà vu et pensent que c'est vrai. C'est donc un problème. Le processus de vérification est trop long. Cela ne veut pas dire que personne ne devrait le faire. Non, il faut le faire. Mais il est plus efficace de bloquer les sources principales et de débunker ensuite les sources secondaires. Il ne s'agit pas de tout bloquer, il s'agit de bloquer les sources principales, parce que vous savez, pour créer des sources importantes, il faut du temps et de l'argent pour les rendre populaires. C'est ça l'important, bloquer les sources principales, pas toutes.
Aujourd'hui, une partie de la vérification des faits en Ukraine est effectuée par le gouvernement. Vous avez été journaliste, Mikhailo Dandkanich. Est-il encore possible de vérifier des informations de manière indépendante en Ukraine ?
Oui, le centre de lutte contre la désinformation est lié à notre gouvernement. Mais il y a aussi StopFake, VoxCheck et d'autres ONG qui font ce travail de vérification et qui ne sont pas liés au gouvernement. Donc oui, en Ukraine, nous avons des rédactions indépendantes.
Merci Mikhailo Dandkanich, merci pour être passé dans le studio RFI. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'organisation ukrainienne Break the Fake qui vise à détecter et à exposer les sources de désinformation russe en Europe. Allez, cap maintenant sur le Canada, où une semaine après sa prise de fonction, le Premier ministre Marc Carney devrait bientôt annoncer la tenue d'élections législatives anticipées. Avec son parti libéral, le successeur de Justin Trudeau aimerait obtenir la majorité au Parlement. Dans ce contexte, Marc Carnet est la cible d'une campagne de désinformation. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Journaliste à la cellule Infovérif de RFI. Plusieurs images trompeuses générées par intelligence artificielle ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La formule employée, on la connaît bien, faire apparaître le nouveau Premier ministre canadien en compagnie de personnalités sulfureuses.
Oui, et c'est précisément une photo qui a retenu notre attention. Elle est apparue mi-mars. Elle fait penser à une photo de vacances. On y verrait Marc Carnet assis sur une chaise de plage aux côtés de l'acteur américain Tom Hanks et de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein. Epstein, le tristement célèbre homme d'affaires et criminel accusé d'avoir réduit en esclavage des dizaines de jeunes filles au profit de la haute société américaine. Ce prédateur sexuel a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic de mineurs. Mais son image toxique est régulièrement employée sur les réseaux pour discréditer, on le disait, tous ceux qui sont prétendument apparus à ses côtés. Idem d'ailleurs pour l'image de son ex, Ghislaine Maxwell, considérée comme la co-organisatrice du trafic et condamnée à 20 ans de prison en 2022 avant de faire appel.
Et en l'occurrence, Olivier, on retrouve beaucoup de fausses images mettant en scène Jeffrey Epstein avec des personnalités.
Oui, fin janvier, déjà était apparue une photo trompeuse censée montrer Marc Carnet aux côtés donc de Jeffrey Epstein dans la piscine de la propriété du milliardaire. Cette image non datée avait été relayée par plusieurs comptes de la sphère pro-Trump. On estime qu'elle a été vue plus de 200 000 fois rien que sur X. La photo est apparue lorsque l'ancien Premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa démission, lançant ainsi la course à la direction du Parti libéral. Et elle est devenue virale peu après la victoire de Marc Carnet à la tête du parti le 9 mars.
Et alors, est-ce qu'il est facile de se rendre compte que cette image a été fabriquée par IA ?
Oui, même si cette image est plutôt bien faite. Par exemple, ses auteurs ont volontairement dégradé la qualité pour brouiller les pistes. Mais si on s'attarde sur l'arrière-plan, on distingue plusieurs incohérences. Les filles en maillot de bain ont le visage déformé et l'avant-bras de l'une des baigneuses a une forme de S qui ne correspond pas à la réalité. Constat similaire sur la photo avec Tom Hanks et Ghislaine Maxwell. Là encore, les doigts sont déformés et une partie du siège est manquant sous la cuisse droite de Marc Carnet. Enfin, si on effectue une recherche par image inversée, on s'aperçoit aussi que cette image a été partagée en ligne et qu'elle porte en bas à droite, en petit, la mention « Grok ». C'est la signature de l'intelligence artificielle générative d'Elon Musk.
Et comme souvent, il y a toujours une part d'ambiguïté dans ce type d'infox.
Oui, car en effectuant des recherches, on retrouve une photo, a priori authentique, de Marc Carnet à deux pas de Ghislaine Maxwell. Cette photo a refait surface sur les réseaux en janvier 2025, mais en fait, elle date de 2013. Marc Carnet, alors gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait été photographié lors d'un festival avec sa femme Diana Fox et d'autres personnalités de la société mondaine britannique, dont Ghislaine Maxwell. Lors de la republication de cette image, l'équipe de campagne de Carnet a démenti tout lien, affirmant que Carnet et Maxwell ne sont pas amis.
Merci Olivier Four, votre travail en son et en images est à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Les dessous de l'Infox, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver en ligne en tapant RFI Infovérif dans un moteur de recherche. Merci à nos invités, à notre chroniqueur ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous laisse avec Philippe Le Caplin. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Grégory, Grégory Genevrier pour les dessous de l'Infox. Dans RFI Soir, la deuxième heure, dans une demi-heure, ce sera l'actualité sur le continent africain. Ce sera avec vous, Zéphirin Quadio. Au sommaire, les résultats des recours engagés par les candidats recalés pour la prochaine présidentielle. Et cela concerne
les candidats dont les dossiers avaient été rejetés.
Quel pays ?
Au Gabon, ils ont été reçus donc à la Cour constitutionnelle ce vendredi. Décision attendue incessamment, ce sera dès le début du journal.
Et puis la tension est montée d'un cran cet après-midi à Walike Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Après une accalmie relative observée dans la matinée, la situation reste très tendue dans cette cité sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis jeudi. Nous irons aussi au Soudan où deux ans après avoir été chassés, l'armée annonce avoir repris le contrôle du palais présidentiel dans le centre de Khartoum, la capitale.
Et puis Afrique Soir s'intéressera à cette journée qualifiée d'historique en Namibie.
Eh oui, Netumbo Nandi Ndeitwa a été investie 5e présidente du pays depuis l'indépendance. C'est surtout, Philippe, la toute première femme élue à ce poste. Son investiture coïncide également avec les 35 ans de l'indépendance de la Namibie. Du sport également au sommaire avec les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Nous irons aussi à Marseille, dans le sud de la France, pour le Babel Music XP, un événement international tout entier dédié à la filière musicale qui se tient jusqu'à demain dans la cité phocéenne.
Et ce sera dans quasiment une heure maintenant. Au-delà, à partir de 21h sur Radio France Internationale, ce sera ici l'Europe qui recevra la présidente de la Banque Européenne d'Investissement, Nadia Calvino, qui est en train de réformer son institution pour qu'elle puisse investir massivement dans le secteur de la défense. Vous écoutez Radio France Internationale.